19h, très belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Là, c'est le nettoyage. Et ensuite, demain, ce sera uniquement la mise en place. On est prêt à être opérationnel mercredi à midi.
Ils sont prêts, le bol d'air tant attendu, c'est pour après-demain, après des mois de restrictions.
Oui, réouverture des bars, des restos, en terrasse, une reprise qui demande une certaine préparation.
Sanofi n'était pas le premier sur la ligne de départ d'arrivée, mais le laboratoire français est bien parti pour rattraper son retard. Son candidat vaccin a passé la phase 2 avec succès. La production industrielle devrait débuter le mois prochain.
Quelques mois après l'américain Perseverance, un petit robot chinois s'est posé sur la planète rouge. Victoire technologique, mais aussi politique. On en parlera pour Pékin, c'est ce que nous dira Didier François.
Et plus d'habitude à cette période, les jeux sont faits. On connaît déjà le champion de France de foot. Et bien cette année, les clubs à tous les étages ont décidé de faire durer le suspense.
Un mot de la météo, Anissa Dadi, avec encore un peu de patience avant de retrouver le beau temps, parce que demain, ça s'annonce pas terrible.
Oui, demain, ça s'annonce exactement comme aujourd'hui, avec des averses qui alternent avec les éclaircies. Les orages seront encore nombreux demain, dans une ambiance fraîche, avec des températures en dessous des normales de saison. Le mieux, c'est pour jeudi, alors patience.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après avoir compté les jours, les Français comptent les heures. Dans 48 heures, à cette heure-ci, ce sera presque l'heure de l'apéro et il y a fort à parier que les terrasses sont prises d'assaut.
Café, brasserie, restaurants sont dans les starting blocks, effectivement, pour cette réouverture après de longs mois sans accueillir aucun client. Une réouverture, évidemment, qui se prépare.
Oui, comme vous l'avez constaté chez vous à Toulouse, Benjamin Péter.
Oui, je me suis rendu dans cette pizzeria située autour de la galerie commerçante de Purpan, au nord de Toulouse. Depuis quelques jours, les commandes sont parties, le personnel est revenu. Stéphane est cuisinier, il avait hâte de reprendre le travail.
Déjà, on a retrouvé les collègues, déjà, qu'on n'a pas vu depuis 7 mois. Et puis, retrouver le client après, parce que je pense qu'ils nous attendent aussi. On est prêt. Là, c'est le nettoyage. Et ensuite, demain, ce sera uniquement la mise en place. Préparer les denrées pour pouvoir être opérationnel. Mercredi à midi.
Le restaurant avait ouvert il y a un an seulement. Pour tous, il a fallu retrouver les gestes du quotidien. Et pour Elisabeth Moret, la gérante de cette pizzeria d'Elerté, repenser toute la terrasse.
On va exploiter notre terrasse à 50%. Et j'ai également la chance d'avoir une deuxième terrasse grâce à mon centre commercial qui m'a légué quelques places de parking. On répète nos gammes. On se prépare à porter un plateau, porter ses assiettes tout bonnement quand on est serveur, mais aussi réviser ses recettes hein, quand on est cuisinier, reprendre tous les bons gestes.
Alors il a aussi fallu racheter du matériel pour équiper cette seconde terrasse, mais ce qu'ils craignent, c'est désormais la météo qui s'annonce maussade ici. En cas de pluie, il faudra donc reprendre le click and collect.
Le reportage de Benjamin Péter à Toulouse, on rappelle que mercredi, c'est aussi la réouverture des commerces non essentiels, des cinémas, des théâtres notamment, et la prolongation de l'heure du couvre-feu de 19h à 21h.
Cette bonne nouvelle maintenant pour les amateurs de sensations fortes ou de féeries.
Disneyland Paris rouvrira ses portes dans un mois, jour pour jour, le 17 juin. Le port du masque pour les visiteurs de plus de 6 ans, il sera obligatoire. Notez que le Futuroscope et le parc Astérix rouvriront un peu plus tôt, dès le 9 juin. Et notez que la directrice générale du parc Astérix sera l'invitée ce soir de l'interview Echo à 22h20 au micro d'Emmanuel Duteil. Les discothèques, elles, n'ont pas encore de date de réouverture. Des élus locaux demandent qu'elles puissent rouvrir leurs portes à partir du 30 juin pour éviter les fêtes sauvages au cœur de l'été.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, mènera une concertation avec l'ensemble des représentants des boîtes de nuit à la mi-juin.
Et plus vite on sera vacciné, plus vite on pourra de nouveau danser, coller serré. Eh bien, bonne nouvelle, Sanofi vient de franchir une étape clé.
Oui, je sais que ça vous manque, ça, de danser collé serré.
Bah oui.
Le PDG du laboratoire français a effectivement annoncé ce matin au micro d'Europe 1 des résultats positifs de son essai clinique de phase 2. Les essais de phase 3 vont donc pouvoir commencer prochainement et parallèlement, Sanofi va donc lancer la production de ce vaccin. C'est dire si le laboratoire est confiant, Anne Le Gall.
Oui, après les résultats décevants de décembre chez les personnes âgées, le laboratoire a annoncé cette fois une réponse immunitaire de 95 à 100% après deux doses de son candidat vaccin. Une efficacité mesurée dans toutes les tranches d'âge de 18 à 95 ans. Ce sont donc des résultats très proches de ceux obtenus avec les vaccins à ARN messager. Mais ce vaccin, qui utilise la technique de la protéine recombinante comme certains vaccins anti-grippe, a l'avantage en plus de se conserver dans un simple frigo entre 2 et 8 degrés. Ces bons résultats vont donc permettre de déclencher début juin les essais cliniques de phase 3 sur 35 000 personnes ainsi que le début de la production industrielle. Malgré ces résultats tardifs, Sanofi estime que son vaccin vaccin sera à la fois utile pour les premières injections et pour les rappels si la vaccination devient saisonnière. 10% de la planète seulement est vaccinée avec une seule dose, rappelle le président de Sanofi France, Olivier Bougillot. Si les résultats prometteurs se confirment, les injections pourraient ainsi démarrer courant novembre.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Merci Anne.
On vous intube, il nous entube. Slogan entendu aujourd'hui dans les manifestations d'infirmiers anesthésistes.
Blouse bleue et verte et masque de réanimation sur la tête, ils voulaient avant tout réclamer une reconnaissance de leur statut et des hausses de salaire.
Ils se disent épuisés professionnellement et personnellement.
Oui, c'est un fléau qui a été boosté par la pandémie dont on vous parle maintenant, la cybercriminalité.
De plus en plus d'entreprises sont victimes d'attaques au ransomware qui paralysent leur système informatique et leur activité. Un phénomène qui s'est encore amplifié ces derniers mois. 9 entreprises sur 10 considèrent qu'il est essentiel de se protéger. Le problème, et c'est une information qu'Europe 1 vous révèle, c'est que les PME ne mettent pas les moyens nécessaires pour éviter ce genre d'attaque, Clément Le Saffre.
Oui, selon cette étude, pour 60% des PME, le budget pour la protection de leur système informatique ne doit pas dépasser 1000 euros par an, une somme qui suffit tout juste pour une TPE de moins de 10 salariés et qui est donc très insuffisante pour une entreprise de 20 ou 50 salariés. Mais au-delà des considérations financières, pour Guillaume Gamelin, vice-président de F-Secure France, il faut surtout mieux former les salariés à la sécurité informatique.
Ça va être d'avoir une bonne sauvegarde de ces données pour être capable, au pire, de repartir le plus vite possible, éduquer les utilisateurs pour changer de mot de passe régulièrement, utiliser des mots de passe forts. Ça va être éduquer les utilisateurs, par exemple, sur le fait qu'il faut patcher régulièrement les machines. Aujourd'hui, on ne se doute pas, mais 8 cyberattaques sur 10 utilisent une faille de vulnérabilité, qui est connu.
Et ce manque de connaissances crée un décalage problématique dans la perception des risques liés aux cyberattaques. 2/3 des dirigeants interrogés estiment que leurs salariés sont suffisamment protégés, et ce alors même que les mesures de base ne sont pas toujours prises. Une entreprise sur 2 ne sécurise pas ses postes de travail et 1/3 n'utilise même pas d'antivirus.
Clément Le Saffre du service Écho d'Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 19h07, dans quelques secondes, la guerre des étoiles. En vrai, la Chine réussit à son tour à faire atterrir un robot sur Mars.
Et puis les supporters de foot sont un petit peu nerveux. Ils devront attendre la toute fin du championnat cette année pour connaître le classement de leur club.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du journal. La Chine a donc réussi à poser ce week-end un drone sur Mars, s'imposant par cet exploit comme la seconde puissance spatiale du monde derrière les États-Unis.
Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, forcément. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors c'est un énorme succès technologique, évidemment, mais aussi une victoire politique pour Pékin.
Effectivement, ce petit robot autonome, alors qu'il s'appelle Zhurong, c'est un peu le Spoutnik chinois, dans le sens où, rappelez-vous, quand les soviétiques avaient réussi l'exploit d'envoyer le premier satellite tourné en orbite autour de la Terre, c'était en 1957, en pleine guerre froide, eh bien, ce fut la démonstration que Moscou maîtrisait parfaitement la technique des fusées extra-atmosphériques, et donc celle des missiles balistiques intercontinentaux. Aujourd'hui, la maîtrise de l'espace reste un enjeu stratégique majeur dans la compétition internationale, et la capacité à poser un astromobile complètement autonome sur la planète rouge, donc à 320 millions de kilomètres de la Terre, c'est la démonstration que Pékin a désormais les moyens scientifiques et financiers de s'imposer comme un sérieux concurrent à la domination américaine, parce qu'à ce jour, seuls les États-Unis avaient réussi à fouler le sol de Mars, sachant que le démonstrateur Schiaparelli de l'Agence spatiale européenne avait explosé lors de sa descente en 2018. Alors certes, la NASA garde une avance très confortable avec 5 missions réussies depuis 1997, mais elle n'est plus en situation de monopole. C'est exactement ce que voulait prouver au monde le président Xi Jinping, qui martèle son objectif de hisser la Chine au rang de toute première puissance d'ici à 2035.
Oui, d'autant que Mars n'était pas le seul programme chinois.
Alors tout à fait, mais parce que pour Pékin, l'année 2021 a une très forte charge symbolique. On fêtera au mois de juillet le centenaire de la création du Parti communiste chinois. Donc c'est pas totalement un hasard si le programme spatial chinois a été particulièrement bien doté au cours de ces derniers mois, avec des missions d'exploration lunaire très spectaculaires, la collecte de matériaux par le petit robot Chang'e en décembre dernier, ou le lancement du premier élément d'une station habitée le 29 avril dernier. La course à l'espace a été sciemment mise en avant par la propagande, car c'est une thématique qui projette l'image d'une Chine puissante, conquérante, dont veut absolument se parer le régime.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Du suspense jusqu'à la fin cette année en Ligue 1 de foot. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Lille aurait pu dès hier soir devenir champion de France, mais le LOSC a concédé le nul à Saint-Etienne, ce qui permet au PSG de revenir en embuscade. Julien Fromont, du suspense, il y en a eu à tous les étages.
Oui, à commencer, vous l'avez dit, par les candidats au titre. Un petit point seulement sépare Lille du Paris Saint-Germain. Les Parisiens habitués à gérer la pression dans ce genre de situation, ce qui n'est pas le cas de Lille, comme le concède l'entraîneur Christophe Galtier après le match nul contre Saint-Etienne.
Beaucoup de nervosité, beaucoup d'erreurs techniques, sûrement pris par l'enjeu, je pense vraiment. Nous n'avons pas fait le match qu'on attendait.
Malgré cet accroc, les Lillois sont toujours maîtres du temps, une victoire à Angers, et ils seront sacrés quoi qu'il arrive champions de France pour la quatrième fois de leur histoire, même si Paris venait à l'emporter à Brest. Un peu plus bas, lutte intense pour la troisième place, synonyme de Ligue des Champions entre Monaco 3e et Lyon 4e. Eux aussi sont séparés d'un petit point. Marseille, quant à lui, a sécurisé sa place en Europe la saison prochaine. Reste à savoir si ce sera la toute nouvelle Ligue Europa Conférence ou la Ligue Europa. Les Marseillais, pour le moment, 5e. Derrière, Lens et Rennes espèrent aussi être 6e et donc européens. Enfin, dans le bas du classement, faites vos jeux. 6 clubs se tiennent en 2 points et sont concernés encore par les barrages. C'est le cas de Nantes, Lorient, Strasbourg, Bordeaux, Reims et Brest. Enfin, Nîmes et Dijon joueront pour l'honneur. Ils sont déjà relégués en Ligue 2 pour la saison prochaine.
Voilà, faites vos jeux. Julien Fromont du service des Sport d'Europe 1.
C'était le journal d'Isabelle Millet. On vous retrouve demain, Isabelle, évidemment, à partir de 18h. Un petit coup d'œil à la météo. Anissa Dadi, demain va ressembler à ce lundi, malheureusement.
Ouais, je dis
malheureusement parce que c'était pas terrible aujourd'hui.
Les journées se calquent, effectivement. Demain, ça va ressembler à aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'au nord de la Loire, nous aurons une journée encore agitée, avec demain, dans le Grand Est en particulier, le matin, des orages, des averses plus fréquentes dans l'après-midi entre la Bretagne et l'Alsace, avec même des coups de tonnerre sur l'Île-de-France, la Bretagne ou encore les Ardennes. Sur la moitié sud, les averses sont moins fréquentes, le temps est un petit peu plus agréable. Au bord de la Méditerranée et dans les Pyrénées, là, il fait beau. Demain, avec quelques passages nuageux qui viendront masquer le soleil de temps en temps, mais rien de très inquiétant. Et le vent d'ouest qui souffle toujours dans le sud avec des rafales jusqu'à 90 km/h, notamment en Corse. Les températures, pareil, les mêmes qu'aujourd'hui, 3 à 12 degrés le matin et 13 à 24 degrés au meilleur de la journée.
Et alors, pour nos terrasses, nos premières terrasses mercredi, qu'est-ce que vous nous dites,
Anissa ? On a scruté la carte de mercredi pour savoir si cette deuxième étape du déconfinement, eh bien, on pourra en profiter. Eh bien, sachez que si vous habitez du Cotentin jusqu'au Pays Basque, en Bretagne, Pays de la Loire, Vendée, Gironde, Pays Basque, au bord de l'Atlantique, vous pourrez flâner et aller en terrasse. Au bord de la Méditerranée et en Corse également, le ciel sera dégagé. Pour les autres régions, ça sera comme aujourd'hui, partagé entre éclaircies et averses, entre deux gouttes.
Avec le sourire, vous.
Pourquoi pas, entre deux gouttes, on essaye.
On y sera quand même, sans doute, en terrasse. Les Français y seront massivement, apparemment, si on en croit les intentions. Merci Anissa, on vous retrouve demain, évidemment,
bonne
à partir
soirée.
De 18h.
Europe 1, Julien Bugy.
Vous restez avec nous, 19h14, dans quelques secondes. Le grand débat du Club des Idées, on parlera de la révolution de l'e-commerce qui est en train de bouleverser nos villes, ubérisation, dark kitchen réservé à la livraison à domicile. Alors, est-ce souhaitable? Est-ce un progrès ou au contraire une régression? On en parle dans quelques secondes avec nos invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
19h18, la suite du Club des Idées. Dans quelques secondes, le grand débat sur la manière dont l'e-commerce est en train de bouleverser nos centres urbains. D'abord, la carte blanche offerte comme chaque lundi à l'écrivain Philippe Besson.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Philippe Besson.
Bonsoir Julien.
Alors ce 17 mai marque, on l'évoquait tout à l'heure dans le journal, la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Et à cette occasion, vous vouliez évoquer l'homophobie dans le football, dénoncée dans Adieu ma honte, c'est un livre choc qui vient d'être publié chez Fayard.
Mais en effet, alors l'auteur de ce récit, puissant, se nomme Wissem Belgacem, il a 33 ans et il est passé par le centre de formation du Toulouse FC au début des années 2000. Il a notamment côtoyé Moussa Sissoko et Étienne Capou, tous deux internationaux aujourd'hui. Il en est ressorti, 5 ans plus tard, éteint. Détruit à petit feu, miné par la violence homophobe qui touche le milieu du football, renonçant de fait à ce qui était une passion et à ce qui aurait pu être une carrière.
Alors comment ce fléau s'est-il manifesté selon lui ?
Bien d'abord, il a affronté l'obligation de la virilité. Ne pas être viril, c'est être faible. Belkacem considère, il n'est pas le seul, que le foot véhicule une culture masculiniste très prononcée. Il évoque même une définition assez moyenâgeuse de ce qu'est être un homme.
Oui.
Il rappelle également que l'insulte numéro 1 dans le vestiaire et les gradins, c'est sale pédé. Et il précise n'avoir jamais entendu la moindre parole inclusive. Il a donc été obligé de se cacher, de mentir et même de lutter contre son identité. Il a ainsi tenté de s'hétérosexualiser, comme il le dit lui-même. Il a vu des psys, il est sorti avec des filles, sans les aimer. Mais cette schizophrénie destructive l'a consumé de l'intérieur. Il a même participé à une brigade anti-gay et cassé du PD dans un bois juste à côté du centre de formation. Dans le livre, il fait d'ailleurs son mea culpa.
Oui, c'est un livre évidemment très très fort que vous avez lu. Wissem Belgacem va jusqu'à évoquer une homophobie systémique dans le football.
Oui, quand il entend Noël Le Graët, qui est le président de la Fédération française de football, hiérarchiser les discriminations en indiquant que s'il y a des chants racistes, on arrête les matchs, mais que s'il s'agit de chants homophobes, on continue, faut avouer qu'on ne peut pas lui donner entièrement tort. Et puis, ce n'est pas le fait de porter un maillot floqué aux couleurs de l'arc-en-ciel une fois par an, comme ça s'est produit ce week-end, qui contrebalance cette aberration. Ensuite, il constate qu'aucun joueur de foot en France en activité n'a révélé être homosexuel. Donc, soit ils ont été découragés, soit ils se taisent. Le foot français, au fond, ce serait un peu comme la Tchétchénie. Vous voyez, la loi du plus fort et celle du silence s'imposent. La loi du fric aussi, car un joueur qui est un actif financier et un coming out lui ferait immédiatement perdre tout ou presque de sa valeur. Belgacem rappelle le cas de Justin Fashanu, premier footballeur gay à avoir fait son coming out en Angleterre et qui a fini par se suicider en 98 parce que tout le monde lui a tourné le dos.
Alors, son récit, et c'est ça qui est intéressant également, n'est pas seulement centré sur le football, Philippe Besson. Belgacem raconte qu'étant arabe et musulman, il a dû également lutter contre les préjugés de son milieu.
Oui, absolument. Il vient d'une cité d'Aix-en-Provence, il est croyant. Adolescent, il s'est senti rejeté à la fois dans son quartier et dans sa communauté religieuse. Quand il se rendait à la mosquée, il entendait que l'homosexualité était un péché. Alors aujourd'hui, il assure avoir trouvé son islam, un islam libéral, et être en paix avec ça. Mais surtout, à force de combat et avec le temps, il a surmonté la honte, la négation de soi et son mal-être. Et compris qu'on ne peut pas changer, évidemment, son orientation sexuelle. C'est une vie malheureuse qui nous attend tant qu'on ne s'accepte pas, dit-il.
Alors, au final, comment lutte-t-on contre l'homophobie?
À l'évidence, tout passe par l'éducation. Il faut expliquer et expliquer encore la diversité, rassurer, sensibiliser à l'acceptation des orientations sexuelles et des identités de genre partout où cela est nécessaire, c'est-à-dire à l'école, auprès des policiers ou dans le contexte professionnel. Le rôle de la famille, évidemment, est également primordial. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que depuis la loi de 2004, l'homophobie constitue un délit passible de condamnation. Enfin, évidemment, on combat ce mal par l'exemple. C'est d'ailleurs pour cette raison que Wissem Belgacem nous donne le sien, en espérant sans doute montrer la voie à d'autres.
Bien, merci. On rappelle peut-être le titre de l'ouvrage.
Adieu ma honte aux éditions Fayard.
Adieu ma honte aux éditions Fayard. Merci infiniment Philippe
Besson
pour cette carte blanche en forme de coup de cœur pour cet ouvrage. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir dans votre Club des idées, le débat désormais à moins de 48 heures de la réouverture des lieux publics, on va s'intéresser, comme on le fait régulièrement dans Europe Soir, sur ce monde qui change. À quoi ressembleront demain nos villes à l'aune de la révolution du e-commerce? Mini-centres logistiques, coursiers, dark kitchen, parking réaménagé. Tout cela est en train de bouleverser le visage de nos cœurs de ville. Alors est-ce un progrès ou au contraire un danger de voir nos villes désertées, ubériser, peut-être perdre aussi ce lien social qui fait notre quotidien. On en parle donc ce soir avec nos invités. Igor Trikovski, bonsoir. Vous êtes membre de la commission développement économique et commerce de l'Association des maires de France et vice-président de la communauté d'agglomération, notamment Paris-Saclay. On en parle également avec Cécile Maisonneuve, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du think tank de la Fabrique de la Cité. Merci de votre présence. Vincent Chabot est également avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue à l'Université de Paris, spécialiste du commerce et de la consommation, auteur de « Éloge du magasin » sorti il y a peu aux éditions Gallimard. Alors d'abord, est-ce que c'est un progrès, selon vous, Vincent Chabot, que tous ces nouveaux services dont le moteur c'est l'immédiateté et la rapidité, est-ce que vous diriez que c'est un progrès ou une régression ?
Les deux. C'est-à-dire que, si vous voulez, la crise sanitaire elle a conduit les confinements, le couvre-feu, à réaménager nos modes d'approvisionnement. Pour le meilleur et pour le pire. Oui. Alors, on a de l'innovation. Vous avez cité un certain nombre d'exemples d'infrastructures qui ont émergé, qui sont multipliées à la faveur des confinements. Et puis, effectivement, il y a un coût social et environnemental de ces réaménagements.
Oui. Même question, Igor Trikovski. Est-ce que c'est la dictature dans laquelle on est en train de tomber du service immédiat, qui représente évidemment un danger pour nos centres-villes, pour le commerce de proximité par exemple? Vous voyez que les achats en ligne ont explosé évidemment pendant la pandémie. Ça représente aujourd'hui plus de 13% des achats globaux, avec ces camionnettes de livraison qui ont envahi nos rues. Est-ce que ça ne tue pas quand même au bout du bout les petits commerces, tout ça?
J'espère surtout qu'on n'est pas face à une dictature, en effet, de ce point de vue-là. On est là pour...
Quand vous voyez qu'il y a des sociétés qui proposent maintenant de vous livrer en 10 minutes, en 10 minutes. C'est-à-dire le temps que vous commandiez, que quelqu'un fasse vos courses à votre place et que tout ça arrive en bas de chez soi, 10 minutes. Si ce n'est pas la dictature de l'immédiateté, ça, je ne sais pas ce que c'est.
Ce principe de l'immédiateté, on l'a d'abord déjà très bien vécu, vous-même en tant que journaliste, nous en tant que politique, puisque le temps de la décision et le temps de l'information ont beaucoup évolué par les réseaux sociaux, par les nouveaux moyens. Et forcément, il fallait aussi qu'au niveau de la consommation, cela se développe de la même manière.
Oui.
Moi, cette question, je me la pose à l'aune de ce que sont nos territoires. C'est d'abord une question de choix. C'est comme ça que nous avons toujours essayé de développer nos centres-villes pour que ce soit des lieux de convivialité, des lieux de vie. C'est aussi du lien social, un centre-ville et un commerce. Un commerçant, il fait le choix de cette carrière parce qu'il aime les gens, parce qu'il a envie d'avoir ce temps d'échange. Il ne veut pas se cacher derrière un atelier où il n'aura pas ce temps de rencontre.
Mais est-ce qu'il fait vraiment le choix ? Est-ce qu'on ne lui impose pas ?
Maintenant, c'est aussi à nous, consommateurs, et pas qu'acteurs, on est consommateurs, de faire ses choix. À titre personnel, et c'est peut-être un acte militant, je n'ai pas pris d'abonnement auprès d'une grande... D'un des grands acteurs qui commence par un A et qui a un très grand sourire sur ses cartons. Mais c'est un choix. Il serait tellement plus simple de pouvoir commander en ligne. Je préfère franchement aller acheter des livres auprès de petits libraires de proximité parce qu'il y a ce service en plus et ce lien humain. Maintenant, il ne faut pas rejeter la technologie. Vous le disiez très justement, il y a aussi eu des aspects extrêmement positifs. Oui. On était face à une situation pandémique. Si on l'avait connue 20 ans avant, comment aurait-on fait pour s'approvisionner ? Ça a aussi permis de faire des choix.
On va rentrer dans le détail des choses parce qu'il y a plein de choses à raconter. Il y a le business de la livraison, il y a la place qui est prise aujourd'hui par nos livreurs et les livreurs en général. Il y a le click and collect, il y a les parkings. Il y a aussi les fermes urbaines qui commencent à arriver dans nos villes. Ça aussi, ça modifie la configuration des espaces de vie collectifs. D'abord, sur la baisse des petits commerces de proximité, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup, la désertification de nos centres-villes. Je voudrais d'abord vous faire partager ce témoignage, un parmi tant d'autres, de Aurélie, qui est opticienne à Thaon-les-Vosges et qui était à notre micro il y a quelques jours.
J'avais une épicerie d'un côté et j'avais un magasin de téléphonie de l'autre côté. Les deux ont fermé et ensuite nous avons une lingerie qui a refermé après par la suite. Ça fait une rue qu'on ne regarde plus. On passe devant et on va là où il y a plus de commerce.
Voilà, ça c'est quand même une réalité, Cécile Maisonneuve. Parce que quand on regarde les chiffres, le taux de vacances commerciales a augmenté de 60% depuis 2014. C'est aujourd'hui 10% à peu près le taux de commerce vacant dans les centres-villes. Ça fait beaucoup.
Alors, il faut savoir de quel centre-ville on parle. Là, le témoignage dont on vient d'entendre, c'est, je pense, une petite ville. Oui. On est dans moins de 20 000 habitants, donc on est dans une petite ville. Et là, le sujet, est-ce que c'est le e-commerce ou est-ce que c'est les centres commerciaux en périphérie ? Là, on parle, je pense, de deux réalités différentes. Ce qu'il faut constater, c'est que oui, taux de vacances, mais quand vous regardez les villes où le commerce physique va bien, le e-commerce va bien aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de vampirisation dans les villes du e-commerce, du petit commerce par le e-commerce. Oui. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Moi, j'ai
comme
toujours
équation.
Entendu dire que Amazon, par exemple, pour le citer, puisque vous en parliez tout à l'heure, détruisait plus d'emplois qu'ils n'en créaient. Quand ils annoncent l'arrivée d'un grand centre logistique, comme c'est le cas récemment, et qu'ils disent on va recruter 1000 CDI partout dans la région, qu'au bout du bout, il y avait plus de destruction d'emplois que de création d'emplois. Juste, c'est une parenthèse, mais ça,
c'est pas
vrai.
C'est pas le cas, c'est une transformation des emplois, c'est pas les mêmes emplois. Le e-commerce, c'est beaucoup de logistique, beaucoup de logistique. Donc ça va être un certain type d'emploi. Vous avez dans le e-commerce des emplois, on va dire, plus polarisés. Vous avez plus de postes de cadre et plus de postes de logisticien. Oui. C'est une transformation et pas une destruction. Si on regarde les chiffres et les études, c'est
d'accord.
bien ce que ça
donc,
montre.
Par exemple, quand on prend les magasins de mode, dont on dit qu'ils sont particulièrement touchés, alors il y a plein de choses qui viennent s'agrémenter autour de tout ça. 20% des achats de mode se font aujourd'hui sur Internet. Et dans le même temps, on voit que les grandes enseignes, Zara, Gap, CEA, Camailleux, annoncent des plans de restructuration. Ça n'est pas lié.
C'est des transformations. Vous savez, il y a un vieil adage allemand qui dit le commerce, c'est le changement.
Oui.
Là, on est en train de vivre du changement en accéléré. Oui. C'est l'effet des crises, et cette pandémie est une crise.
Oui.
Ça accélère tout un tas de tendances, donc c'est ça qu'on est en train de vivre.
Mais sauf que la masse salariale d'un magasin Zara, ça n'est pas tout à fait la même que celle d'un transporteur qui amène un produit A à un point B.
C'est exactement le sujet. C'est un sujet de transformation de la nature des emplois.
Bien, alors on marque une pause. Voilà, le débat est posé. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités et les témoignages aussi par téléphone. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on poursuit le Club des idées. Grand débat ce soir sur l'impact du e-commerce sur nos villes à l'aune de cette révolution qui s'est imposée dans notre quotidien. On continue d'en parler évidemment avec nos invités. mobilité. Alors, on parlait de la livraison et de l'importance des livraisons aujourd'hui dans nos villes. C'est vrai qu'il y a la livraison des colis avec les grands centres de logistique. Et puis, il y a la livraison, depuis quelques années maintenant, qui rencontre un vif succès, des repas. Uber Eats, Deliveroo, qui est devenu un marché absolument colossal et pour lequel on ouvre maintenant des gigantesques dark kitchens qui ne reçoivent pas de clients, mais uniquement des livreurs. Et on est justement en ligne avec le patron de l'une de ces dark kitchens. Enfin, c'est un groupe qui regroupe plusieurs dark kitchens. C'est Jean Valfort. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes aussi restaurateur, je crois.
On est même essentiellement restaurateur.
Oui. Non, je vous pose la question parce que est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire de la concurrence aux restaurants traditionnels avec ces dark kitchens qui sont donc des cuisines dédiées uniquement à la livraison de repas à domicile ou de repas en entreprise ?
Et vous faites bien de poser la question parce que c'est souvent ce qu'on nous reproche potentiellement, c'est de faire la concurrence à la restauration traditionnelle. Non, pas du tout. Moi, je reste persuadé que le restaurant est un moment en extérieur, c'est un moment social, on sort pour voir ses amis, c'est pour ça qu'on va au restaurant. Alors que la livraison, c'est pour quand on est à la maison, quand on n'a pas le temps de faire les courses, quand on n'a pas envie de faire la cuisine. Ce sont deux choses très différentes.
Bien. Donc, c'est pas du tout en concurrence, c'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire que vous imaginez ça comme une offre complémentaire par rapport au restaurant traditionnel.
Exactement, je pense qu'on fait plus de la concurrence peut-être à la distribution type les grandes et moyennes surfaces. Oui. Je pense qu'on c'est quand les gens ne vont pas faire des courses à l'extérieur, ils commandent chez nous, oui. Ou plutôt ils commandent chez nous parce qu'ils n'ont pas envie d'aller faire des courses.
Combien de commis travaillent dans une cuisine type Dark Kitchen ?
Alors nous, on a des petites unités qui font entre 5 et 7 salariés, qui ont entre 5 et 7 cuisiniers. Ouais.
Mais ça peut être beaucoup plus, hein. Je crois qu'il y a des cuisines qui sont très très importantes. Et combien de repas vous livrez, par exemple, par jour ?
Ça dépend des jours de la semaine. En début de semaine, c'est une centaine de repas. En fin de semaine, ça peut dépasser les 200 repas.
Par jour.
Tout à fait. Oui, donc c'est 200 commandes avec 1,8 repas par commande, donc ça peut dépasser les 350 repas par jour en fin de semaine.
Bien, merci infiniment pour votre témoignage Jean Valfort, merci d'avoir été avec nous. Réaction Vincent Chabot, vous êtes sociologue. Est-ce que c'est un monde idéal, le monde où on clique sur son téléphone et puis on a un petit monsieur ou une petite dame qui arrive à fond les ballons avec son vélo ou son scooter, nous livrer ses repas avec, c'est déjà une modification dans l'espace urbain aujourd'hui. On voit des dizaines de livreurs qui attendent devant des restaurants, devant des dark kitchens, en vélo, en mobylette, à pied ou en voiture, pour livrer les repas. Est-ce que c'est ça la ville de demain ?
Vous évoquez les cartons avec les flux de marchandises, donc ça c'est le e-commerce. Vous avez évoqué également les dark kitchens, je vais évoquer aussi les dark stores, c'est-à-dire des supermarchés fantômes qui permettent effectivement une livraison ultra rapide. Ça répond malgré tout, quand on voit les chiffres avancés par monsieur, à une demande d'immédiateté. Et
La même question, est-ce que c'est l'offre qui crée la demande ou est-ce que c'est la demande qui crée l'offre ?
Bah, quoi qu'il en soit, en tout cas, les infrastructures créées trouvent preneur, si j'ose dire.
Oui. Et puis le confinement qui a favorisé évidemment ce marché.
Pour les courses, l'exemple du Dark Store est intéressant parce que si vous voulez, il y a depuis une vingtaine d'années une fragmentation des courses. C'est-à-dire que les gens s'approvisionnent toujours dans les hypermarchés, hein. Ça c'est quand même le modèle dominant. Mais on voit, alors les familles changent de taille également avec les familles monoparentales, on voit des courses qui sont de plus en plus fragmentées au cours de la semaine. Mais effectivement, je pense qu'il faut insister là-dessus, les modèles ne sont pas substituables. Et l'histoire du commerce nous montre en tout cas, depuis la révolution des grands magasins au 19e siècle, qu'un format de magasin ne remplace pas un ancien format de magasin. Oui. Il y a une complémentarité des circuits de vente.
Alors, c'était un extrait que je voulais vous faire partager parce qu'on aime bien les archives aussi dans le Club des Idées. Les petits commerçants victimes du progrès. C'est une rengaine qu'on entend depuis longtemps. Alors, est-ce le cas cette fois-ci ? En tout cas, en 1969, c'est déjà ce qu'on entendait à la radio.
Le vrai problème est celui de l'adaptation du petit commerce au monde moderne. Depuis 20 ans, 12% des détaillants indépendants ont disparu. L'origine de cette crise, c'est l'urbanisation qui favorise les formes modernes et concentrées de distribution, comme les libres-services, les grands magasins, les supermarchés et aujourd'hui les hypermarchés. Les petits commerçants sont en quelque sorte des victimes du progrès.
Voilà, c'était vrai à l'époque avec le développement des supermarchés qui était une révolution, même les hypermarchés qui s'installaient dans les banlieues de nos villes, mais c'est le cas aussi aujourd'hui avec ces histoires de livraison et de e-commerce, Igor Trikovski. Ça veut dire que demain, on peut avoir des villes qui... alors j'entends qu'il y a débat sur le sujet, mais qui se transforment en espèce de centre logistique au détriment de commerçants propres.
Le but, ça va être de réussir à rebondir comme on a pu rebondir face à ces commerces de périphérie qui s'étaient implantés avec notamment les grandes surfaces et qui avaient fait beaucoup de mal, en effet, au commerce de centre-ville. Il va falloir se réinventer pour garder ces éléments de convivialité. Là, on parlait restauration avec les dark kitchens, mais ça me fait penser à ce que disait Jean-François Piège de façon très juste. La France, c'est pas tant la cuisine, c'est la gastronomie. Et en fait, c'est une expérience qu'on vient chercher dans un restaurant. Donc ces restaurants-là, bien évidemment, après cette vague liée au confinement, on va voir qui va rester sur le carreau. Mais ceux qui vont savoir rebondir vont prendre aussi en considération ces éléments d'expérience.
Oui.
Et ça va être des acteurs d'autant plus forts de nos centres-villes, parce qu'ils vont être attractifs, ils vont être des acteurs de vie, des acteurs de lien social là-dessus. Et forcément, il y a un certain nombre d'activités qui vont se retrouver là aussi en périphérie. Vous parliez très justement des questions logistiques à échelle beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait connaître hier. Mais on a aussi une attente écologique dans nos territoires. La fameuse logistique du dernier kilomètre, elle est devenue prépondérante. La capacité de pouvoir livrer en toute proximité, en évitant de faire traverser des camions dans des villes, c'est aussi des sujets qui intéressent tous nos habitants. Donc de fait, on va se réinventer. On parle de ville intelligente, oui. C'est question de e-commerce et technologie forcément.
Mais vous êtes plutôt optimiste sur l'issue de ce développement?
On va passer par des moments forcément difficiles aussi, parce qu'il y a certaines villes qui vont être exsangues, mais on le connaissait déjà auparavant. Cette crise, et vous le disiez très justement il y a quelques instants, on l'a connue auparavant, et ce sont des transformations. C'est une nouvelle transformation et on est obligé de s'adapter.
Alors, il y a un autre élément, je voudrais faire réagir Cécile Maisonneuve, présidente du think tank de la Fabrique de la Cité. Il y a un autre élément urbain qui est en train de changer avec tout ça, c'est les parkings souterrains, avec la volonté de sortir la voiture des villes. C'est ce qu'on voit notamment à Paris. Alors, ils perdent leur utilité principale, ces parkings, c'est évidemment de se garer et d'accueillir des véhicules, et ils deviennent des entrepôts utiles à la livraison. Enfin, on retombe toujours sur cette idée.
Moi, je trouve que l'arrivée de ces dark stores, par exemple, c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'installer la logistique dans la ville. Parce que jusqu'alors, c'était quoi? C'était les centres-villes cacher cette logistique que nous ne voulons pas voir.
Oui.
La logistique, c'est la mobilité des biens, c'est la mobilité qui n'est pas noble. On ne parle que de la mobilité des personnes. Or, cette mobilité des biens, elle est essentielle pour nous nourrir. Et aujourd'hui, quand vous mettez le bâtiment logistique dans la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que ville, en tant qu'élu, vous contrôlez, tiens, le camion qui arrive là, il roule à quoi? Vous pouvez contrôler ça. Tiens, la surface, quelle est l'énergie qui fait tourner ce magasin? Vous pouvez tout contrôler. Jusqu'alors, les villes n'avaient aucun contrôle sur la logistique, dire l'immobilier logistique.
Oui.
Donc c'est très important, cette internalisation de l'immobilier logistique dans la ville.
À ceci près que je voyais que les livreurs, par exemple pour Uber Eats, on en compte 30 000 début 2020, majoritairement en scooter, ce qui crée évidemment des nuisances. D'ailleurs, Nantes les a interdits, ces scooters, dans l'hypercentre entre 11h30 et 6h du matin. Et selon un rapport de France Stratégie, eh bien, les livraisons contribuent à l'engorgement urbain et les livraisons de marchandises contribuent même, alors là, c'est incroyablement étonnant, à 30% des particules fines dans les villes. Sans parler d'ailleurs de la numérisation, parce que toutes ces applications qu'on utilise, ça crée de la pollution.
Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la mise en place actuelle qu'on est en train de vivre dans nos villes, des zones à faible émission. Donc l'idée, c'est que tous les véhicules les plus polluants ne pourront plus entrer. C'est une interdiction.
Oui.
Eh bien, tout ce domaine-là est aussi en train de se transformer. Alors, en contrepoint de ce qu'on vient de se dire, ça c'est la pollution, c'est-à-dire les particules fines. Mais il y a une étude qui vient d'être faite par Oliver Wyman avec l'Université de Saint-Gall en Suisse qui vous montre que le e-commerce est beaucoup moins émetteur de CO2 que le commerce physique.
Bien.
Donc vous voyez, le tableau n'est pas ni blanc ni noir.
Des deux côtés, on marque une nouvelle pause, 19h40, et on se retrouve avec nos invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du Club des Idées, on continue évidemment de parler de la manière dont le e-commerce et l'ubérisation d'une certaine manière de la société est en train de bouleverser notre quotidien et surtout nos cœurs de ville. Et on est en ligne avec Maxence Alotto, qui est adjoint au maire à la ville de Grenoble, adjoint au commerce, à l'artisanat, à l'économie locale et à la vitalité de proximité. Qu'est-ce que ça vous inspire, la discussion que nous avons depuis tout à l'heure et tous ces bouleversements dans la ville de Grenoble?
Écoutez, c'est une réalité qui est complexe aussi à Grenoble, comme vous le disiez, à la fois parce que le e-commerce prend une place de plus en plus importante. En l'espace de 10 ans, le nombre d'achats a triplé, avec un panier moyen qui a été divisé par 3. Donc, cela veut dire que c'est des volumes de plus en plus forts. Et donc, forcément, derrière aussi, une pollution très importante, des nuisances aussi pour les habitants, donc beaucoup de difficultés aussi pour nous.
Et par conséquent, la ville de Grenoble a décidé de légiférer pour diminuer les livraisons de e-commerce, ou en tout cas les livraisons du quotidien?
Alors, on a plutôt décidé d'accompagner.
Notamment,
alors, par deux aspects. L'aspect que vous évoquiez tout à l'heure sur, bien sûr, des plateformes à l'extérieur des villes pour permettre justement le dernier kilomètre. Et la deuxième chose, d'avoir en hypercentre un local effectivement dédié à la logistique urbaine qui permettra à la fois aussi de faire de la conciergerie et d'accompagner l'ensemble des livreurs. Ouais. Et un deuxième aspect aussi, une maison des coursiers, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que actuellement avec Uber et Deliveroo, pour ne pas les citer, les conditions de travail sont compliquées pour celles et ceux qui travaillent dans ce secteur-là, et nous voulions aussi les accompagner.
Oui. Maxence Alotto, est-ce qu'on peut être écolo et être pro-livraison ?
Eh bien écoutez, on peut livrer déjà par des véhicules propres, par du vélo. Par des véhicules propres aussi, on va dire, de manière automobile ou autre, mais en tout cas, certainement pas par des scooters à toute vitesse dans les rues piétonnes.
Bien, merci infiniment de votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous, Vincent Chabot, sociologue à l'Université de Paris. Peut-être une réaction sur ce qu'on vient d'entendre, et puis plus globalement sur l'implication aussi pour la mobilité dans la ville. Est-ce que ça peut perturber la mobilité de tout à chacun des citoyens dans les villes, ce fonctionnement d'ultra-livraison ?
La dernière révolution commerciale que nous vivons, elle s'est accélérée depuis les derniers mois, c'est la révolution du e-commerce. Je pense qu'il y a deux étapes. Il y a une première étape, c'est celle un peu incarnée par Amazon depuis la fin des années 90. Un capitalisme numérique prédateur avec des produits qui viennent de loin. Un modèle effectivement logistique qui n'est pas durable, qui n'est pas vertueux. Aujourd'hui, comme le disait monsieur, effectivement, il faut réfléchir et mettre en place les conditions d'une logistique durable et également apaiser les relations sociales sur la voirie. Parce que je pense qu'il y a un problème d'environnement, d'émissions de particules fines, mais il y a aussi un problème de tension sur la voirie, d'encombrement de la voirie. Il suffit de prendre un vélo à Paris pour voir à quel point c'est risqué et à quel point le e-commerce, justement, joue un rôle dans ces tensions.
C'est la même problématique, Cécile Maisonneuve, dans toutes les villes, les grandes villes, les mégalopoles d'Europe, où c'est propre à Paris.
Non, c'est une tendance vraiment propre à toutes les grandes villes. Alors, la France et Paris se situent à un niveau de maturité du e-commerce qui est intermédiaire entre pays du Sud et pays du Nord. Le pays le plus avancé en Europe, alors géographiquement encore en Europe, c'est l'Angleterre. Et là, les accélérations qu'on voit montrent que la France est dans la tendance. Ce qui est intéressant, malgré tout, dans l'espace urbain, ce que ça donne une nouvelle valeur stratégique à quelque chose dont on avait oublié qu'il avait une valeur tout court, c'est le trottoir. Parce qu'aujourd'hui, tous ces livreurs qui attendent sur le trottoir, les livraisons, Il y a une nouvelle science qui se développe chez les urbanistes, s'appelle le curb management, ça vient des États-Unis. C'est savoir ce qui se passe sur le trottoir devient une donnée stratégique parce que vous pouvez adapter finalement le fonctionnement de votre espace urbain selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, à ce qui s'y passe. Et ça, les villes commencent très sérieusement à s'y intéresser.
C'est-à-dire qu'on prend en compte le fait qu'entre 11h et mettons 14h, il va y avoir des attroupements sur les trottoirs qui vont créer des nuisances, quelles qu'elles soient. Et donc, on prend ça en compte pour redessiner la mobilité dans nos villes.
Exactement, exactement. Il y a aussi l'endroit où vous vous faites déposer quand vous êtes dans un VTC. C'est exactement le même principe. C'est cette idée que le trottoir devient un actif qu'il faut vraiment penser en tant que tel, qui peut être très désagréable ou très agréable. Et là, on retombe sur l'attractivité du commerce physique, parce qu'un trottoir qui est très désagréable, vous n'avez pas envie de vous promener, vous n'irez pas dans les magasins.
Igor Trikovski, vous êtes membre de la commission développement à l'Association des maires de France, vous êtes vice-président d'une grande communauté d'agglomération, Paris-Saclay. Pour l'élu que vous êtes, est-ce que c'est souhaitable une grande ville où il y a d'un côté les petites mains, les livreurs, et puis de l'autre, ceux qui profitent et qui commandent ?
Certainement pas si on est dans un élément qui est aussi clivant. Le but est justement que la vie reste un élément d'articulation entre les uns et les autres, où chacun trouve sa place, où chacun trouve son emploi, où chacun trouve son utilité. J'aime beaucoup cette notion de dire la réappropriation et l'importance du trottoir. C'est une réalité. C'est aussi en ça qu'on va accompagner nos commerçants. Vous parliez de l'agglomération dont je suis vice-président, nous avons souhaité les accompagner dans tout ce temps de confinement, là encore dernièrement, avec des aides au loyer, pour qu'ils puissent surnager sur cette période, pour éviter de se retrouver avec une double peine dans cette situation-là. Mais on a voulu aller aussi sur les étapes d'après. On les accompagne sur la digitalisation, avec des plateformes sur lesquelles ils peuvent venir plus facilement s'intégrer pour utiliser les nouvelles règles du jeu. Sur la question de la logistique, on a fourni aux villes de notre agglomération des vélos cargo pour faciliter ces livraisons. Donc on est dans cette anticipation. Et la réappropriation de l'espace public pour tous sera extrêmement importante, mais il ne faut pas la subir.
Il y a peut-être un élément, on va aller un peu dans le futur pour terminer, il y a peut-être un élément qui pourrait changer la donne et faciliter la mobilité dans l'espace public, c'est la livraison par drone. Il paraît qu'en Australie, ils y réfléchissent.
L'objectif était de proposer du café et de la nourriture de qualité et de les envoyer dans de bonnes conditions. La livraison par drone est juste une nouvelle étape dans ce domaine. Après avoir commandé, il faut seulement 3 minutes pour que notre client puisse avoir son café en main. C'est juste un nouveau mode de livraison.
Alors, il y a Amazon qui avait réfléchi à cette histoire de livraison par drone. Il semblerait, Vincent Chabot et Cécile Maisonneuve, ça sera ma dernière question, qu'on se dirige plutôt vers des petits robots dans les villes qui nous livreraient les colis de façon totalement automatisée, parce que par drone, évidemment, ça pose des problèmes de sécurité trop importants. Qui veut répondre ?
Ça fait rêver, c'est-à-dire que ça participe à la stratégie de communication de ces grands opérateurs. Je pense que les choses vont être un peu plus compliquées à mettre en place après, mais effectivement, rien n'empêche la communication et la, comment dirais-je, l'émerveillement par le numérique.
La livraison par ces petits robots mobiles, là, ça c'est du concret ?
Allez en Angleterre, vous en verrez, oui, dans certaines, je pense à Milton Keynes par exemple, une ville nouvelle, vous avez des petits robots qui lisent sur les trottoirs, les enfants adorent, hein, parce que voilà. Et puis, alors c'est vrai que par les airs, là évidemment c'est réservé, mais réfléchissons-y quand même, hein, à des zones périurbaines très peu denses, un peu loin de tout. Est-ce que c'est mieux par les airs ou sur la route ? Ça vaut le coup de se poser la question.
Bon, et ben on verra ça, ça sera pour une prochaine émission. Merci à tous les trois d'avoir participé au débat du Club des Idées dans Europe Soir.
Europe 1. Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes. Les archives d'Europe Soir. Et aujourd'hui, on reviendra sur le jour où Michel Platini a mis fin à sa carrière. C'était en 87. À tout de suite.
Quand Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du Club des Idées, les archives, comme tous les jours à cette heure-ci. Le jour où, 3 minutes pour comprendre quand le passé éclaire le présent.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Julien, bonsoir.
Alors,
à tous.
Ce soir, retour avec vous sur le dernier match de Michel Platini, la légende du foot français. C'était le 17 mai 87, sous le maillot de la Juventus Turin.
Et pourtant, il pleut hein, sur Turin ce dimanche après-midi. Les larmes du ciel se mêlent à celles des tifosi et les supporters de la Juve qui n'auraient manqué pour rien au monde ce dernier rendez-vous. Dans les tribunes, l'envoyé spécial d'Europe 1, notre regretté Eugène Saccomanno.
Tristesse sur le Stadio Comunale où Michel Platini a joué sous la pluie son 147e et dernier match de championnat avec les bianconeri, les noirs et blancs de la Juve. Le public le respectait. À preuve, ses inscriptions aujourd'hui en français. Merci Michel, ne me quitte pas Michel, ou encore Michel, quelle tristesse sans toi.
Voilà, Platini est entré le dernier sur la pelouse, deux bouquets de fleurs à la main. Il va les lancer dans les gradins pour remercier les fidèles de la Juve avant d'entamer son dernier récital. Quelques gestes de grande classe qui permettent à son équipe de l'emporter, 3-2. Puis ce sont les adieux, sobres, les deux bras levés. L'artiste disparaît, place aux hommages, dont ceux forcément lyriques de la presse transalpine.
Michel Platini a représenté le football, j'ai dit comme Frank Sinatra pour la musique, c'était la voix, comme Jean Gabin pour le cinéma était le film, le cinéma.
Il jouait donc, il interprétait le football.
Il interprète le football, je pense comme il interprète la vie. Le premier commandement d'un joueur, c'est d'amuser les spectateurs.
Ouais, 5 ans durant, Michel Platini aura tout gagné avec la Juve.
Oui, 2 titres de champion d'Italie, 1 coupe, 3 fois meilleur buteur du championnat italien, lui qui ne jouait même pas avant-centre. 3 ballons d'or consécutifs entre 83 et 85. Platini, c'était la star du foot. Mais il était aussi un homme décidé, voire entêté. Même le surpuissant propriétaire de la Juve et de la Fiat, Giovanni Agnelli, a dû se plier à sa décision.
Je regrette beaucoup qu'il parte, mais c'est son choix. Il a passé 5 années en Italie. Il a fait du bien aux relations d'Italie et la France. C'est le plus grand joueur européen de sa génération. Évidemment, même Michel Platini ne peut pas être avoir été. Il nous a tout donné ce qu'il pouvait.
Oui, à 32 ans, Platini a la sensation d'avoir tout gagné. Les jambes sont lourdes et la tête a du mal à suivre.
Oui, et c'est là qu'il faut parler du palmarès européen de Platini. 1 Coupe des Coupes en 1984 et l'année suivante, le Graal, la Coupe d'Europe des clubs champions, ancêtre de la Ligue des champions. La Juve bat Liverpool 1-0, pénalty de Platini. Mais pendant ce temps, dans les hôpitaux de Bruxelles où se joue la finale, des centaines de blessés sont soignés après l'attaque en tribune des hooligans anglais et l'effondrement d'une partie de tribune. Il y aura 39 morts. Platini ne sait pas l'ampleur du drame qui vient de se produire. Il exulte après son but. Cela lui sera longtemps et injustement reproché. avait une cicatrice jamais vraiment refermée et surtout pas en ce 17 mai 1987 où le numéro 10 ne cache pas sa lassitude.
Je suis sûr que j'arrête parce que ça fait quand même un an que j'ai pris cette décision. Je sais que je n'arriverai plus à me motiver. Je sais que je n'arriverai plus à m'entraîner. Je sais que je n'aurai plus envie de souffrir. Je sais que je n'arriverai pas à être meilleur que demain qu'aujourd'hui. Donc, vaut mieux arrêter. J'aurais pu jouer comme ça à la baballe pendant encore quelques années, mais je crois que ça aurait servi à rien.
Alors, il y aura encore un post-scriptum, un jubilé, autrement dit un match d'adieu, à Nancy l'année suivante.
Oui, toutes les stars de l'histoire du foot sont là, ou presque. Hein. Le casting est incroyable. Il y a même Maradona qui va rendre fous les organisateurs, comme le raconte à l'époque Eugène Saccomano.
Maradona est une star du football et il se conduit, hélas, comme une star. Avant le match, enfermé dans sa chambre d'hôtel, il demande à ne jouer que 5 minutes. Il fait attendre le quart où se trouvent Pelé et les meilleurs joueurs du monde. Déjà le matin, il avait voulu faire la grasse matinée et il avait raté volontairement l'avion de Nancy pour qu'on puisse lui louer une limousine.
Voilà, Platini deviendra dans la foulée sélectionneur de l'équipe de France, co-président de l'organisation de la Coupe du Monde 98, puis président du foot européen à l'UEFA avant d'être mis en cause dans un dossier de salaire présumé illégal. À 66 ans aujourd'hui, il a promis qu'il reviendrait, mais on ne sait ni où ni quand. Platini a toujours été, vous le savez, un grand dribbleur.
C'est vrai. Merci Jean-François Pérez pour ce récit savoureux. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans quelques secondes, Julien Pierce pour le rappel de l'info et puis Émilie Mazoyer pour la musique. Salut Émilie.
Salut Julien.
En forme?
Ah oui, très en forme, merci.
Quel est
merci.
Le programme?
Alors, tu vas voir, tu vas être en forme aussi puisque c'est un groupe des nouveaux talents qui s'appelle Lulu Von Trapp. Des sonorités rock un peu rétro, mais pas que. Et c'est en français et en anglais. C'est le premier album de Lulu Von Trapp. Et on va les découvrir ce soir.